Cette balade audio vous est proposée par TheVisite.com. Téléchargez gratuitement plus de 2000 guides audio sur TheVisite.com.
Nous sommes devant la grille du lycée Émile Zola.
La physionomie de ce monument bâti sous le Second Empire séduit le regard par la diversité de ses matériaux si colorés.
Il faut absolument bâtir une chapelle. Je le souhaite vivement. Non, je l'ordonne.
On prétend que c'est l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, qui aurait désiré la construction de la chapelle du lycée.
D'ailleurs, regardez au-dessus de l'entrée principale. Vous voyez l'aigle impérial ?
Baissez les yeux et observez le soubassement de la grille. Les marques dans la pierre sont des traces d'éclatement d'obus qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Tout ce quartier de Rennes est alors ravagé. Mais par bonheur, le lycée est épargné. À cette époque, il porte le nom de René-François de Chateaubriand. L'établissement a failli s'appeler le lycée Ubu ou encore le lycée Alfred Jarry, car l'auteur Duburois a fait ses études ici.
Par ma chandelle verte. Savez-vous que mon dramaturge s'est inspiré de son professeur de physique pour me créer ?
C'est en 1971 que le lycée est baptisé Émile Zola, car c'est là, dans la salle des fêtes, que s'est tenu le second procès de Alfred Dreyfus.
Pourquoi le procès s'est-il tenu là ?
Parce que Rennes est une ville de garnison et qu'un conseil de guerre y siégeait. Et comme la prison militaire se tenait en face du lycée...
À la place des locaux actuels de France 3, retournez-vous. Vous voyez ?
Alfred Dreyfus n'avait que l'avenue Janvier à traverser. À l'époque, l'affaire était si brûlante, déchaînait tant de passions qu'il fallait prendre un maximum de précautions pour protéger le prisonnier.
Paris, le 13 janvier 1898.
Demandez l'horreur ! Demandez le j'accuse de Zola !
J'en prends un.
3 sous, ma petite dame.
Voilà, gardez.
Merci bien. Demandez l'horreur !
Mon Dieu ! Émile Zola écrit au président de la République, Félix Faure.
La France a sur la joue cette souillure de l'affaire Dreyfus. L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis. Mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis.
Mais il faut absolument que je le rencontre, cet Émile Zola.
Le 9 septembre 1899... Un an plus tard.
Alors, vous avez fait tout ce chemin pour venir jusqu'à moi. Il est vrai que ces temps derniers, depuis mon exil en Angleterre, j'étais loin. Votre nom déjà ?
Louise. Louise Tissot. Et j'ambitionne de devenir journaliste, comme vous.
Ce ne sera pas facile.
Pourquoi cela ? Parce que je suis une femme ?
Ne dites pas de sottises, mais regardez-moi plutôt. Je suis un vieux fou qui s'acharne à se mêler de l'affaire, comme on dit, à mots couverts. On me juge, on me condamne pour ça. Je dois même quitter mon pays.
Mais c'est vous qui avez raison. Dreyfus n'est pas un espion à la solde de l'Allemagne. C'est évident que ce pauvre capitaine est innocent.
Vous prêchez un convaincu.
Et cette affaire est l'arbre qui cache la forêt. La France est sur des charbons ardents. L'antisémitisme va grandissant. Même les familles sont déchirées à cause de cette affaire. Que peut-on faire ?
Écrivez. Faites savoir votre colère. Mais à présent, laissez-moi s'il vous plaît. L'attente des délibérations du second procès du capitaine Dreyfus m'épuise.
Monsieur Zola, ça y est, on sait, Dreyfus est jugé encore coupable. Ils l'ont condamné à 10 ans de travaux forcés.
Oh mon Dieu.
Mais dans quel monde vivons-nous ?
Paris, le 4 juin 1906, 7 ans plus tard.
Bon, Louise, c'est pas parce que tu viens d'être promue chef rédactrice qu'il faut que tu les rendes en retard, tes papiers.
Oh, 2 minutes, je le relis et j'arrive. Aujourd'hui, lors du transfert des cendres d'Émile Zola au Panthéon, un journaliste nationaliste a tiré sur Alfred Dreyfus, pourtant réhabilité depuis peu. Si le capitaine Dreyfus est légèrement blessé au bras, que dire de la France ? Elle semble saignée de partout. Cette triste affaire semble avoir mis la folie dans les têtes et le feu aux poudres. À quand l'horrible explosion ?
Face à nous, au numéro 7 de l'avenue, l'immeuble de l'architecte Poirier. Regardez bien sa façade.
Elle est décorée par les célèbres mosaïques Art déco d'Isidore Odorico. En 1882, son père et son oncle arrivent d'Italie et installent un atelier de mosaïque dans la capitale de la Bretagne. Après avoir étudié aux Beaux-Arts, Isidore reprend la direction de l'entreprise familiale qui deviendra l'un des plus grands centres de mosaïque de France. Séduit par le style et l'impulsion créatrice des années 20, il entreprend la décoration de la piscine Saint-Georges qu'il vous faut absolument visiter.
Et pourquoi pas, vous y baignez peut-être ?
Partez sur les traces d'Isidore Odorico à Rennes. L'office de tourisme tient à votre disposition le circuit art déco de la ville.
Tout en écoutant le commentaire, prenez à votre droite la rue Toulier. C'est au numéro 6 que se trouve la salle des fêtes où s'est déroulé le second procès Dreyfus. Un espace culturel appelé les Champs Libres regroupe la bibliothèque, l'espace des sciences et le musée de Bretagne, dont une salle est entièrement consacrée à l'affaire Dreyfus. De l'autre côté de la rue Toulier, le musée des Beaux-Arts.
Il présente une collection d'œuvres exceptionnelles, parmi elles, des toiles de Rubens, Delatour, Picasso.
Vous continuerez alors dans le prolongement de la rue Toulier et avancerez rue du Pré-Beauté.
Au numéro 38, le célèbre quotidien Ouest France.
Son premier nom fut Ouest Éclair et il naquit pendant le second procès Dreyfus.
Les murs de briques du bâtiment abritaient à l'époque les imprimeries du journal.
Le 4 août 1944, Rennes est libérée et le 7 août, Ouest Éclair devient Ouest France. Vous arriverez enfin place de la République.
Là, le métro, réalisé en 2002, est à votre disposition pour découvrir encore la capitale de la Bretagne.
Bien d'autres lieux rennais méritent le détour. Pour des visites de la ville complètes et thématiques, le service des guides de l'Office du Tourisme se tient à votre disposition.